Le billet politique avec vous Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour.
Emmanuel Macron s'en va en guerre.
Depuis lundi soir et la prise de parole d'Alexis Keller depuis le perron de l'Elysée, on avait un peu de mal à percevoir le sens politique de la mise en place du nouveau gouvernement. La distribution des rôles ne semblait pas vraiment correspondre au cahier des charges fixé au préalable par Emmanuel Macron. Il avait annoncé vouloir se réinventer. Le monde d'après ne pouvait pas ressembler à celui d'avant. Pourtant, le dévoilement de la nouvelle équipe chargée de mettre en musique les deux dernières années du quinquennat ne semblait pas traduire cette ambition. On y a découvert peu de nouveaux ministres et surtout, on ne percevait pas à travers ces nominations quelle priorité le chef de l'État entendait donner à son action. Et puis, aux environs de 17h, hier, en fin d'après-midi, à la sortie du Conseil des ministres, le nouveau porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a vendu la mèche.
C'est un gouvernement de combat, puisqu'il faut se battre pour l'emploi, se battre pour la reconstruction de notre pays, pour l'émancipation, et que nous aurons à mener ce combat face à une crise économique historique et sans doute sans commune mesure dans l'histoire.
Ce gouvernement est donc un gouvernement de combat pour les 600 jours qui restent avant la fin du quinquennat. Ce chiffre a également été mis en avant lors du compte-rendu de Gabriel Attal hier après-midi. La formule gouvernement de combat n'est pas nouvelle. Elle avait déjà caractérisé le gouvernement qu'avait mis en place François Hollande le 2 avril 2014, au lendemain de la défaite aux élections municipales. Il avait, comme Emmanuel Macron aujourd'hui, décidé d'évacuer le Premier ministre, jusque-là Jean-Marc Ayrault, pour le remplacer par Manuel Valls. Et il avait lui-même attribué ce qualificatif guerrier à la nouvelle équipe.
Il est temps d'ouvrir aujourd'hui une nouvelle étape. Et j'ai donc confié à Manuel Valls la mission de conduire le gouvernement de la France. Ce sera une équipe resserrée, cohérente et soudée. Comment dire ? Un gouvernement de combat.
À l'époque, François Hollande avait fixé 3 objectifs à son nouveau gouvernement. Renforcer l'économie, œuvrer pour plus de justice sociale et redonner du pouvoir d'achat aux Français. Mais concrètement, qu'est-ce qu'avait fait François Hollande ? Peu de changements. Il avait exfiltré les grands brûlés de son premier gouvernement, Vincent Peillon, Pierre Moscovici. Et puis il avait maintenu en poste les plus solides, les plus fidèles de ses lieutenants, Laurent Fabius, Michel Sapin, Stéphane Le Foll, Jean-Yves Le Drian déjà. Le parallèle est assez frappant. Hormis la crise liée à l'épidémie de Covid-19, on a une défaite électorale aujourd'hui qui conduit à un changement de Premier ministre. Les ministres devenus encombrants sont exfiltrés et Emmanuel Macron procède à la mise en place d'un gouvernement dit de combat, chargé en réalité de préparer la candidature du chef de l'État à sa réélection.
Et l'on peut remonter comme ça dans l'histoire politique du pays.
En novembre 2010, Nicolas Sarkozy décide d'un remaniement qu'il avait annoncé quelques mois auparavant. François Fillon démissionne avant d'être cette fois reconduit à Matignon. Et une fois la nouvelle équipe mise en place, il la défend à l'Assemblée nationale en ces termes. Je le confirme, c'est un gouvernement de combat. On était alors à 18 mois de la présidentielle de 2012. En 2004, même chose, la droite encaisse une sévère défaite aux élections régionales. 24 régions sur 26 sont remportées par la gauche. Jacques Chirac décide de remanier le gouvernement et Jean-Pierre Raffarin prend là encore la tête d'un gouvernement qualifié de combat. Le remaniement et la constitution d'équipes composées de personnalités chevronnées et fidèles sur lesquelles s'appuyer est un classique pour les présidents en difficulté. C'est ce qu'avait expliqué Roselyne Bachelot en février 2016 dans l'émission « C'est à vous » sur France 5. C'était avant son retour en politique.
Le remaniement, c'est la dernière arme des gens qui voient le pouvoir leur échapper. Et le seul pouvoir qui leur reste, c'est le pouvoir de nomination. Ils empaillent leurs ministres sur les murs pour faire oublier leurs échecs. François Hollande n'est pas le premier, d'autres l'ont
fait. C'était déjà le cas de Chirac.
Oui.
Cette vidéo a beaucoup tourné depuis lundi soir et la nomination de Roselyne Bachelot au poste de ministre de la Culture, on ne sait pas si elle s'y sent empaillée. En tout cas, elle fait partie de ce gouvernement de combat au service d'Emmanuel Macron en vue de sa réélection en 2022. Elle sera chargée, comme d'autres, d'abord de faire face à la crise économique et d'accompagner le monde de la culture dans une période qui s'annonce difficile. Et puis, à mesure qu'approchera l'échéance, il lui faudra aussi défendre l'action et le bilan du président. Elle est une politique chevronnée, habituée aux joutes médiatiques et capable de s'exprimer sur de nombreux sujets, pas seulement la culture. On trouve également ses qualités chez Éric Dupond-Moretti, nommé à la justice. Il s'annonce comme un bretteur médiatique redoutable, en particulier contre le Rassemblement national. Et c'est aussi valable pour les ministres nommés ou confirmés dans les principaux ministères, Bruno Le Maire, Jean-Michel Blanquer, Gérald Darmanin, Julien de Normandie, Olivier Véran. Ils sont à l'aise devant les médias, capables de tenir une matinale de radio ou de télévision. On acte donc là en partie la fin du gouvernement des experts promis par Emmanuel Macron en 2017. Il en reste quelques-uns, mais ce ne seront pas nécessairement ceux qui seront mis en avant. On voit là que malgré la meilleure volonté du monde de faire de la politique autrement, malgré les promesses de réinvention, dans la pratique, certaines règles semblent immuables. La vie politique est bien souvent un éternel recommencement.